Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que ça va bien. It's been a while, right? Donc ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu. En fait, c'est mon premier podcast depuis 2024, mais ça fait déjà un bout de temps que j'en faisais plus, pas en fait, parce que il est arrivé plein de choses en fait. J'ai été très occupé, tout ça, mais je suis pas ici pour vous donner des excuses. Je suis ici pour vous, vous annoncer une belle nouvelle. Comme vous pouvez voir, je me suis équipé d'un beau studio. Pourquoi? Parce que ça fait près de 4 ans que je fais des podcasts et c'est quelque chose, c'est un format que vous aimez beaucoup parce que ça me permet de passer à travers de la littérature scientifique, ça me permet de passer à travers aussi une myriade, mon mot préféré, une myriade de sujets connexes et c'est ce qu'on va regarder tout simplement ensemble aujourd'hui. Donc, il va y avoir des podcasts qui vont sortir de façon hebdomadaire, donc à toutes les 2 semaines, un nouveau podcast qui va sortir à tous les lundis. On a fait aussi un compte Instagram qui s'intitule le.show.a.félix. Donc, le show à Félix, vous pouvez voir juste ici. Donc, vous allez pouvoir retrouver des extraits des podcasts. Je vais faire des Q&A sur ce canal-là pour voir parfois, une fois par 2-3 semaines, je vais en faire un pour pouvoir, à tous les exemples, 2 mois, faire un podcast qui va vous poser des questions donc dans un Q&A pour me permettre aussi de répondre aussi à vos questions et à vos interrogations. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais tout d'abord, le premier sujet de 2024, on commence comme ça. Je vais vous donner, en fait, tout ce que moi, personnellement, j'ai appris en 2023. Donc, 7 trucs santé, fitness, nutrition que j'ai appris en 2024 ou que, je ne vais pas dire appris, ou que j'ai réalisé ou des choses qui m'ont comme un peu, qui sont venues me chercher puis qui m'ont fait peut-être changer aussi mon approche puis changer un peu ma vision de l'entraînement et de tout ça. Donc, aujourd'hui, on passe à travers ces 7 choses-là et ça y va comme suit. Le premier sujet que j'ai appris en 2023, en fait, on va parler du calorie in et du calorie out. Bon, vous le savez, je le répète souvent, pour perdre la graisse, c'est relativement simple. Il faut consommer, moins d'énergie qu'on en dépense, right? Mais vous avez beau travailler avec n'importe quel fitness guru sur le web, je vois tellement de choses à passer, puis ça me trigger. Puis à chaque fois, à chaque fois que je parle de ces choses-là qui me trigger, c'est pas pour régler mes comptes, c'est pas pour me plaindre, c'est juste parce que malheureusement, il y a plein de gens qui sont peut-être vous qui m'écoutiez, qui sont un peu comme hey, « ça marche pas mes affaires, j'arrive pas à perdre de poids », puis qui voient des « snake oil sellers », c'est comme ça qu'on appelle ça, des vendeurs d'huile de serpent, parce que dans le temps, je pense que dans le Moyen Âge, il y avait des espèces d'arnaqueurs qui vendaient ça, puis qui disaient que l'huile de serpent, supposément, ça avait des vertus. Puis c'était de la sauce, c'était pas vrai. Fait qu'il y a plein de gens, malheureusement, qui essayent de vous vendre du snake oil pour vous faire acheter des choses. Puis malheureusement, c'est souvent des gens qui vont cibler directement des gens qui sont un peu désespérés, qui ne savent pas par où aller et tout ça. Puis malheureusement, ayant un baccalauréat en kinésiologie puis étant étudiant en biochimie, puis ça, moi, ça me trigger parce que je sais qu'il n'y a aucune façon de briser la loi de la thermodynamique, right? Fait que si tu rentres plus d'énergie dans ton système qu'il y en a qui est oxydé ou qui sort, qui est utilisé, tu ne perdras pas de gras, OK? Fait que c'est pour ça que ça, c'est une loi universelle. Ceci étant dit, il y a certaines choses que je veux parler aujourd'hui. Bien, premièrement, c'est que chaque aliment n'est pas égaux, OK? Il y a un effet thermogénique aux aliments. Ce que je veux dire par là, c'est que des protéines ont un effet thermogénique beaucoup plus élevé qu'exemple des lipides ou des glucides, OK? Donc, quand vous consommez, exemple, 100 calories provenant de protéines, c'est pas vraiment 100 calories qui va avoir un impact direct sur votre système parce qu'il y a une certaine partie de ces calories-là qui vont être utilisées sur une type de forme d'énergie différente à cause de la digestion, c'est plus difficile. Fait que le 100 calories va être peut-être un petit peu moins que 100 calories. Puis là, quelqu'un va me dire « Ouais, mais Félix, ça veut dire que la thermogénèse, c'est pas vrai. » Non, c'est vrai. C'est juste que c'est plus difficile avec des protéines de vraiment dire « OK, j'ai 100 calories de protéines, j'ai besoin de faire un déficit de 100 calories. » C'est un petit peu plus vague que ça. La deuxième des choses, c'est les fibres. Quand vous consommez des fibres, ça va avoir un impact qui est positif sur votre sensibilité à l'insuline. Ça va avoir un impact positif aussi pour votre transit intestinal et tout ça. Et il y a une soustraction à faire. Tu sais, exemple, vous avez des glucides, vous avez 50 grammes de glucides, il y a 10 grammes de fibres, ben il y a certaines personnes qui disent « OK, il faut faire 100 moins 10 grammes pour vous donner 90 grammes. » Ce n'est pas nécessairement comme ça qu'il faut le faire, mais il faut juste se prendre en ligne de compte qu'un aliment possédant des fibres insolubles, ben, ce qui va arriver, ben, c'est que ça ne va pas avoir le même impact calorique qu'exemple des glucides qui n'a pas de fibres à l'intérieur. Okay? Et la troisième chose, c'est les hormones. Et la masse musculaire. Quelqu'un qui a une grande densité musculaire, inévitablement, peut consommer beaucoup plus d'énergie parce que les muscles, c'est comme des réservoirs. Okay? Plus vous consommez d'énergie, plus que les muscles peuvent suck up cette énergie-là, exemple les glucides, les protéines, and so on, un peu les lipides, et se stocker à l'intérieur du muscle au lieu d'aller se stocker sous forme de graisse. Right? Et les hormones vont avoir un impact. Un adolescent qui a son hormone de croissance est très élevé, ben, a une meilleure capacité d'absorption, puis une meilleure capacité à gérer ce qu'il consomme au niveau énergétique que quelqu'un qui a un hormone de croissance qui est basse ou qui a une testostérone qui est basse. Okay? Donc, il y a certaines hormones clés qui vont vous aider à avoir une meilleure gestion, une meilleure répartition au niveau des aliments. C'est pour ça qu'il y a différents types d'individus qui ne vont pas avoir le même métabolisme de base. Il y a des cofacteurs génétiques, mais aussi, il y a un effet aussi hormonal. Puis je rentre aussi par là tout ce qui est fonction thyroïdienne et tout ça. Puis on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais tout ceci étant dit, OK, c'est rampe calorie in, calorie out. C'est pour ça que quelqu'un, exemple, qui a une hypothyroïdie diagnostiquée, donc une glande thyroïde qui ne fonctionne pas de la bonne façon, exemple, va avoir une plus grande difficulté à perdre du gras. Ça, c'est indéniable. Par contre, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que la personne doit être traitée. Elle a une condition médicale, elle doit être médicamentée. Ça peut être du synthroïde, bon, j'ai mes réserves, sinon ça peut être du thyroïde. Il y a différents types de choses, que médicaments qu'on peut prendre. Il faut parler à son médecin et à son pharmacien. Mais ceci étant dit, c'est une condition à traiter. Oui, la personne va avoir de la difficulté à perdre la graisse, ça c'est un fait, mais elle peut quand même le faire. C'est juste qu'il va falloir qu'elle consomme encore moins de calories parce que son métabolisme basal va être au repos. Donc, il va falloir qu'elle consomme moins de calories. Donc, par le fait même, malheureusement, cette personne-là, ça se peut qu'elle absorbe moins de micronutriments parce que là, si elle doit consommer 1200 calories, on s'entend que c'est très bas comme chiffre. Puis, on s'entend qu'elle risque de manquer de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et tout ça parce que sa quantité d'aliments qu'elle consomme va être très petite. Donc, c'est le tip numéro un, c'est qu'on garde les calories et calories out en tête, mais on regarde quand même the big picture. Fait que c'est sûr que si quelqu'un vient voir et dit « Ah, c'est pas vrai les calories, j'ai entendu dire que c'est le stress. » Non. OK. Le stress, puis je vais juste faire un aparté là-dessus. Beaucoup de gens vont faire un modèle d'affaires en disant « Le stress, c'est ce qui t'empêche de perdre du poids. Le stress, c'est ce qui... » Le stress va avoir un impact négatif chez la majeure partie d'entre nous à cause de certaines cascades hormonales qui vont arriver, donc on fait du glucagon et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens, quand ils sont stressés, ils vont consommer beaucoup de sucre pour s'automédicamenter, parce que quand on mange du sucre, souvent, on baisse le cortisol un petit peu. Mais il y a d'autres personnes que quand ils sont stressés, ils ne vont pas manger du tout. Fait qu'il y a des gens qui, eux, ils vont vivre beaucoup de stress, puis ils vont se dire, oh my God, ils vont perdre 20 livres. Est-ce qu'ils vont perdre juste de la graisse? Non, ils risquent de perdre du gras et du muscle, malheureusement, mais ils vont perdre du poids, il y en a d'autres qui vont prendre du poids. Fait que le stress, oui, c'est un fléau dans notre société en ce moment, mais c'est pas. Si vous êtes stressé, ça se peut que vous perdiez du poids pareil. Là. Je peux vous dire que dans des pays en sous-développement, que les gens l'ont dur, ils sont pas gras parce qu'ils sont stressés. Ils sont pas obèses parce qu'ils sont stressés. T'sais, tu vois, dans des pays où est-ce qu'il y a la guerre, tu vois, dans des pays où est-ce qu'ils vivent des situations géopolitiques qui sont très tendues, très difficiles, ou qu'il y a un mauvais accès à l'alimentation, ou whatever what, les gens ne sont pas stressés, sont pas obèses. c'est une prémisse qui ne tient pas la route, surtout quand on voit des exemples qui sont concrets en ce moment. Là, okay? Les gens, le stress peut avoir un impact négatif sur la santé mentale, la santé physique, la performance, vous amener à faire aussi des mauvais choix alimentaires, ça c'est indéniable. Est-ce que le stress en lui-même créer de la graisse sur votre corps? Ben non, la graisse est créée par de l'énergie. Deuxième point, en 2023, on a vu beaucoup les cold plunge. Les cold plunge ont été super populaires. Le cold plunge, c'est quoi? C'est l'immersion dans de l'eau glacée. On parle en dessous de 10 degrés. Inévitablement, c'est autour de 4 degrés. Les cold plunge, j'ai quelqu'un que j'adore, Andrew Huberman, neuroscientifique à Stanford, qui actuellement il parle beaucoup de tout ce qui est biohacking et tout ça, puis c'est devenu très populaire. Puis après, il y a beaucoup d'influenceurs aux États-Unis qui ont pris la balle au bon, puis qui sont partis là-dessus. Ce qui se passe avec des cold plunge, c'est que lorsque vous mettez un stress qui est inconfortable sur le système, bien, par la suite, vous allez avoir un release de dopamine. Et la dopamine, c'est une hormone qui est extrêmement puissante. On appelle ça l'hormone, si vous voulez, de la motivation. Le neurotransmetteur, excusez-moi, de la motivation. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on fait des cold plunges sur une base régulière, on se sent mieux, on crée plus de dopamine, donc tout semble meilleur. Ça, les choses goûtent meilleures, les couleurs sont plus belles, j'exagère, mais vous voyez un peu le principe. Et il y a un côté aussi très marketing, pas marketing, mais un côté très... marketing, ouais. Côté un peu cool à faire ça parce que tu fais quelque chose que les gens ont de la difficulté à faire. Fait qu'il y a certaines personnes aussi qui vont chercher un peu cette valeur-là à travers ça. Hey, moi, je fais quelque chose qui est difficile, mais je le fais pour ma santé puis je suis quand même cool. Les gens, les adeptes de cold plunge, après plusieurs jours, souvent après 7 jours consécutifs, disent que ça bâtit d'un leur résilience. De deux, ça leur fait faire plus de dopamine. De trois, ils ont une meilleure réaction face au stress parce que lorsque le corps s'immerge dans une eau, exemple de 3, 4, 5, 6 degrés, c'est très inconfortable. Le corps se met en mode de survie et veut sortir. Donc, si vous vous forcez à rester, ça va travailler inévitablement votre résilience. Ça peut être intéressant. J'avais parlé aussi dans un podcast sur la perte de gras avancée que le fait de grelotter en sortant d'un cold plunge pourrait, selon certaines études, stimuler aussi la perte de gras. Est-ce que ça va être tout significatif que faire 10 minutes de tapis roulant au gym? Non. Okay. Mais ça peut possiblement avoir un impact. Le cold plunge, si vous décidez d'en faire, je vous recommande d'en faire quelques fois par semaine, mais pas tous les jours. La deuxième des choses, parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez devenir cold adapted, vous allez devenir adapté à ça, et les bienfaits ne seront plus les mêmes. La deuxième des choses, si vous voulez vous procurer un cold plunge, il y en a plein qui sont vendus sur Amazon, il y en a un peu partout. Il faut être capable de garder son eau froide et son eau propre. OK, s'il y a plusieurs personnes qui utilisent un cold plunge à la maison, moi, je vous conseille, il y a plusieurs stratégies. Vous pouvez utiliser des produits qui sont faits pour les spas en liquide que vous pouvez mettre à l'intérieur pour vous aider à garder l'eau un petit peu plus propre. Il y a d'autres façons. Si vous voulez y aller all natural, ça serait avec du sel d'Epsom, mais encore là, je trouve que ce n'est pas l'idéal. Sinon, c'est mettre des pastilles de brome et d'acheter des languettes de pH comme dans une piscine et de tester votre pH, tester votre brome et tout ça. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire parce que souvent, là, moi, je navigue sur les réseaux sociaux puis là, je vois des vidéos de monde qui laissent la cold plunge dehors, qui rentrent dedans puis qui le laissent de même tout l'hiver. À mon sens, c'est un peu dégueulasse là, parce qu'oubliez pas, il n'y a pas de système de filtration là-dedans. Là, okay? Fait que vous ne voulez pas non plus créer des agents pathogènes dans votre eau. Fait que vous voulez que la garde est clean. Un autre truc, si vous avez un garage, moi j'ai un cold plunge, je le laisse dans le garage l'hiver, je ne chauffe pas mon garage. Mon garage est autour de peut-être 5 degrés, 4 degrés autour de ça. Fait que mon eau reste très froide. Et je change mon eau environ 4 à 6 semaines. Quand j'ai de la visite, puis on fait des cold plunges, je la change aux 3-4 semaines. Le seul problème, c'est que si vous êtes comme moi, vous n'avez pas d'eau dans votre garage, il faut attendre une température clémente à l'extérieur pour vous permettre de plugger la hose, changer l'eau. Là, aujourd'hui, c'est comme on est quoi? On est le 10 janvier, puis là, comme il fait comme 4 degrés, fait que je sais qu'après le podcast, moi, je vais aller vider mon eau et la remplir, plugger ma hose et tout ça. Fait que c'est un peu un chiard l'hiver au Québec, mais ça se fait très, très bien. Moi, personnellement, je la laisse en garage pour deux choses. Pour garder mon eau froide sans la garder glacée. Et la deuxième des choses, pour pas non plus que ça travaille la structure de plastique de mon baril. Fait que c'est quelque chose à prendre en considération. Un autre aussi élément très important au niveau de la santé, là on a parlé des cold plunges, les fameux saunas. Bon, moi, je me suis fait un privilège, je me suis commandé un sauna finlandais en cèdre avec des pierres et tout ça. Et je suis vraiment content. J'ai mis ça dans ma cour. C'est un cadeau que je me suis fait parce que ça fait bientôt 5 ans que je suis un grand fervent des saunas avant que ça devienne trendy et la mode. Puis tant mieux, ça devient la mode parce que c'est une étude en 1986. Puis il y a des études plus récentes. Là, mais tu sais, la première étude qui a été faite sur les cold plunge, ça date d'autour de 1986. Ça a été fait sur un groupe d'étudiants dans la début vingtaine. Et les étudiants, en fait, il y avait un groupe d'hommes et de femmes. Ils ont testé un protocole pour l'augmentation de l'hormone de croissance. Parce que qu'est-ce qui est important de comprendre au niveau des saunas, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le heat shock protein au niveau du système qui peut être stimulé durant les cold plunge, durant les saunas, dis-je. Et ça vous aide à fight back tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Il y a des études, il y a une fille qui s'appelle la Dr. Rhonda Patrick, elle a fait beaucoup d'études par rapport à ça, puis elle s'est rendue compte que plus souvent que vous faites des séances de sauna dans votre semaine, plus vous réduisez vos risques de maladies cardiovasculaires, tout facteur confondu. Donc, c'est indéniable que prendre des saunas, c'est quelque chose qui est bénéfique, dis-je, pour la santé. Donc, vous avez un sauna à votre gym, allez en faire, OK? C'est super important. Vous allez dans des stations thermales, c'est un peu cher, blanc, mais faites-en et faites-en souvent. Maintenant, comment faire un bon sauna? Ce qu'il faut comprendre quand on fait du sauna, c'est que vous voulez que la température soit à minimum 175 à 180 Fahrenheit. OK? Je pense que c'est au couteau de 88, 90 degrés Celsius, je ne suis pas sûr. Mais on va y aller en Fahrenheit, c'est plus facile. 175 à 180 Fahrenheit minimum. Et vous voulez rester un minimum de 10 minutes. Il faut aller jusqu'à 20 minutes si vous voulez. Faites juste attention de bien vous hydrater. Et vous pouvez consommer aussi des électrolytes, sodium, potassium, magnésium, parce que inévitablement, vous allez suer et vous allez dépliter ces minéraux-là. Okay? La deuxième des choses, je reviens à l'étude qui était faite en 1986. Donc, c'est une étude qu'ils ont faite avec un groupe témoin d'hommes et de femmes. Puis, dans le fait, ce qu'ils ont testé, c'est qu'ils ont testé un protocole pour augmenter l'hormone de croissance. Okay? Ils faisaient 2 heures de sauna par jour. Et puis, supposément que l'hormone de croissance montait de 14 fois le taux voulu. L'hormone de croissance, j'en parlais précédemment un peu plus tôt, c'est ce qui va vous aider à avoir une meilleure oxydation des graisses, meilleure récupération. C'est l'hormone anti-âge, si vous voulez. Okay? Donc, il y a un YouTuber récemment qui a fait le test. En fait, il a testé ce même protocole-là. Donc, il a fait 30 minutes de sauna le matin à 190 Fahrenheit, 3-4 minutes de break avec une douche froide, et après, il a fait un autre 30 minutes. Et en soirée, il a fait la même chose. Fait qu'il a fait 2 heures total, c'est ce qu'il a fait dans les études. Et le lendemain, il est allé il a fait ses tests d'hormone de croissance la veille du test, et il a fait ses tests d'hormone de croissance après avoir fait les saunas. Et son hormone de croissance avait monté de 17 fois sa norme. Fait que, it works, OK? Ça fonctionne. Par contre, il faut le faire seulement une fois par semaine parce que si vous le faites de façon répétitive, inévitablement, il va y avoir une adaptation, donc les résultats ne seront pas les mêmes. Mais si vous dites, OK, moi, je suis un athlète, je fais des Ironman, je m'entraîne fort, je veux juste ralentir le vieillissement et tout ça, et vous avez accès à un sauna, que ce soit à votre gym, que ce soit dans une station thermale ou quoi que ce soit, ben c'est le protocole à suivre pour avoir des bienfaits dans mon croissance dans un contexte de fitness. Encore là, je le répète, il faut que la température soit assez chaude. N'oubliez pas, dans un sauna, plus vous êtes assis en bas, plus que c'est froid. Plus vous êtes ici assis, dis-je, en haut, plus que c'est chaud. D'autres choses aussi, quand vous mettez de l'eau sur des pierres, OK, ça ne va pas réchauffer le sauna, ça va le refroidir. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que sur le coup, vous avez comme chaud, mais après, ça refroidit la pièce. Pourquoi? Le but de mettre de l'eau sur les pierres, c'est que vous augmentez l'humidité. Et quand vous mettez de l'humidité, c'est beaucoup plus facile de respirer. Parce que si vous êtes dans un sauna, je vous le dis, là, à 180 Fahrenheit, là, c'est quand même dur à toffer. Okay? Fait que le fait de mettre de l'eau sur les pierres, ça va vous aider l'humidité, vous allez mieux respirer. Fait que ça, je vous dirais que c'est la deuxième des choses au niveau du deuxième point, les saunas. La troisième des choses, c'est la fameuse lumière dans les yeux. Hein? J'en parlais, c'est drôle, j'ai revu un vlog de moi de 2016 que je parlais de la lumière au niveau de la rétine de l'œil, qui stimule la mitochondrie, là, la petite batterie au niveau de la cellule. Puis récemment, on en parle de plus en plus. Fait que qu'est-ce qui est important, c'est que quand vous êtes à l'extérieur, essayez, s'il vous plaît, le moins possible de mettre des lunettes fumées. Je sais que c'est beau, je sais que c'est sexy, je sais que ça paraît bien. Même moi, je me trouve beau avec des lunettes fumées. Je trouve que j'ai des cernes, puis je trouve que ça paraît moins. Puis bref, je vais laisser mes enjeux personnels de côté dans le podcast. Mais c'est ça. Mais essayez quand même d'avoir un contact de la lumière directement au niveau de la rétine de l'œil. Ça va vous aider à stimuler la mitochondrie qui va vous aider aussi à produire de l'énergie. Okay? Une autre chose aussi, la lumière au niveau de la rétine de l'œil va inhiber la mélatonine. En inhibant la mélatonine, dis-je, ça va vous aider à avoir aussi plus d'énergie le matin et à réguler votre courbe éveil-sommeil. Fait que la première des choses, je vous dis le matin quand vous vous levez, s'il fait encore noir, blastez toutes les lumières, je l'ai déjà dit, blastez toutes les lumières dans la maison pour avoir cette espèce de lumière-là pour mimiquer un peu la lumière naturelle. Mais as soon as il y a de la lumière à l'extérieur, allez tout de suite à l'extérieur et profitez-en. L'hiver, c'est moins facile à cause qu'il y a moins de lumière, donc essayez de rester plus longtemps à l'extérieur et l'été, vous pouvez y aller un petit peu moins longtemps, mais il faut commencer votre journée avec ça. Si vous voulez aussi, vous avez la misère à dormir le soir, je vous recommande fortement aussi d'aller passer un moment à l'extérieur lors du coucher de soleil. Ça va aider aussi à votre corps à comprendre que le soleil se couche et à travailler au niveau de votre cycle circadien. Fait que ça, c'est sur mon deuxième point, sur des tweaks qui ont été apportés, que j'ai comme vérifié puis que ça a comme été justifié en 2023. Troisième point, la dopamine. Hein? C'est la fameuse dopamine. On en a entendu beaucoup parler. J'ai fait un podcast juste là-dessus. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, qui a changé ma vie. Puis ça a changé la vie aussi à mon meilleur ami, Olivier. C'est un gars que, ben, pour une raison ou une autre, il n'était pas nécessairement dans un protocole en particulier. Puis là, il a commencé à mieux comprendre sa dopamine et tout ça. Et ça l'a changé du tout au tout. Ça a changé le gars. Il est vraiment... il s'est optimisé, mais de façon vraiment drastique. Perdu plus de 30 livres. Meilleure énergie, meilleur focus, meilleure attitude. Bref, life-changing experience, OK? Et comment stimuler cette fameuse dopamine? La dopamine, on dit que c'est souvent le neurotransmetteur de la motivation. Donc, si votre dopamine elle est basse, malheureusement, ben, la motivation va être basse aussi, right? Ça vient avec. Et si elle est haute, la motivation va être haute, OK? On dit souvent des choses que vous pouvez faire, des choses qui sont, on dit dopaminergiques, OK? Ça, c'est des choses qui stimulent la dopamine. Puis souvent, bon, vous avez, j'imagine, votre pensée dans la tête, ce qui est dopaminergique dans notre tête, c'est comme le sexe, la drogue, le jeu, bon, tout ces all that good stuff-là. Mais la réalité aussi, c'est que la dopamine est boostée quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas et que vous le faites et puis vous le menez à terme. J'ai un exemple. Je vais prendre l'exemple de David Goggins. J'ai écouté une entrevue récemment. Il disait, vous savez c'est qui? C'est un gars qui court des ultramarathons. Il court tout le temps, il court tout le temps. Puis lui, c'est une façon de se punir et de stimuler sa dopamine parce qu'il dit qu'il déteste courir. Même après toutes ces années-là, il déteste courir et c'est pour ça que la course est dopaminergique chez lui. Si vous adorez la course, oui, après, vous allez faire des endorphines et tout ça, mais vous n'allez pas faire ou très peu de dopamine. C'est très important de comprendre ce point-là. La dopamine va augmenter si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Quand vous commencez à aimer cette tâche-là, vous ne faites plus de dopamine à la fin. Fait que c'est pour ça que faire des choses que vous n'aimez pas sur une base régulière vous aide à tempérer votre dopamine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que il y a certaines personnes qui vont, exemple, la fin de semaine, faire le party, boire, fait qu'ils mettent des couches de dopamine, tu sais. La drogue, ça va faire la dopamine, l'alcool, le sexe, whatever what. Fait qu'ils vont faire, ils vont monter leur dopamine tellement haut que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand il va arriver le lundi, la dopamine va être rendue en bas de la maintenance normale. Donc, ils vont se sentir dépressifs, OK? Parce qu'ils vont l'avoir montée artificiellement tellement haute qu'ils ne pourront plus la gérer de la bonne façon, right? Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui peut augmenter la dopamine de façon naturelle. Donc, faire des choses que vous n'aimez pas va vous permettre d'avoir une meilleure gestion de cette dopamine-là et de la monter de façon naturelle sans qu'elle pique et qu'elle crash. C'est pour ça, souvent, on voit les gens qui rentrent le lundi matin, j'ai besoin de 8 cafés. Pourquoi? Parce que le café, c'est dopaminergique. Okay? Fait que, c'est juste qu'une fois que vous comprenez un peu comment gérer votre dopamine, comment la gestion de dopamine occur, bien, ça va vous aider à avoir une meilleure gestion de votre simplement de votre santé mentale. Okay? Fait que, voilà. Quatrième point, ça m'amène à parler de la motivation versus la discipline. On se promène sur les réseaux sociaux. C'est galvaudé partout. Hein? You need discipline. Parce que la motivation, tu n'en as pas tout le temps, mais la discipline. La réalité, c'est que même la discipline, tu ne pourras pas l'avoir tout le temps. Okay? Personne n'est discipliné. Vous n'êtes pas des Navy SEALs. Vous n'êtes pas des soldats. Je veux dire, c'est ça. Fait que c'est très difficile d'être toujours discipliné. Puis la réalité, c'est que même les gens qui disent faut de la discipline, des fois, tu vois, deux semaines après, ils font une vidéo, puis là, ils sont là, oh, c'est temps-ci, ça va pas bien, je suis pas motivé, mais là, je me raccroche. Tu sais, c'est très difficile d'être discipliné, OK? On n'est pas tous des, puis là, je paraphrase des David Goggins de Someone Right. Fait qu'il faut travailler sur la motivation. Puis là, le monde est dit, ouais, mais là, la motivation, c'est éphémère. Oui, mais encore là, qu'est-ce qui stimule la motivation? La dopamine. Comment stimuler la dopamine? Directement ce que je vous ai dit. Fait que si vous avez un équilibre de vie qui est sain, si vous faites les bons choix dans votre vie, inévitablement, votre dopamine va être mieux gérée. Et si vous voulez vous aider, des moments que vous ne voulez pas aller au gym pour augmenter votre dopamine, rien ne vous empêche pas de prendre un pré-workout avec un peu de caféine à l'intérieur. Pourquoi? C'est la caféine, c'est dopaminergique. Il y a certaines compagnies aussi qui vont mettre la tyrosine, l'acétaminée, dans leur pré-workout. Pourquoi? La tyrosine, c'est dopaminergique, right? Fait qu'ils vont stimuler la dopamine. Vous pouvez aller chez Shop Santé, vous en procurez un. Mon code, c'est Félix, si vous commandez en ligne, pour avoir 10% sur votre commande. Fait que de façon sporadique, un pré-workout pourrait être quelque chose d'intéressant à utiliser pour vous aider à aller chercher cette motivation-là. Sinon, La musique, c'est très dopaminergique. La nouveauté, novelties, c'est la chose la plus dopaminergique. Pourquoi les gens qui sont dans des relations éphémères et frivoles sur l'ensemble des sites de rencontres? ben ça tanne vite. Ben, c'est que quand tu t'habitues à quelque chose et que tu comprends pas que l'excitation que tu avais du moment qui est descendue, c'est pas que tu as perdu intérêt en l'autre personne, c'est juste que tu fais moins de dopamine. Fait que là, tu as besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu es dans un cercle vicieux, puis que ça s'en va nulle part parce que tu fais juste écouter tes désirs pour stimuler ta dopamine, mais que tu te rends compte que tu bâtis jamais rien. Hein? Mais à ce moment-là, c'est ça. Fait que c'est très dopaminergique faire des nouvelles rencontres. La nouveauté est très dopaminergique. Puis il faut comprendre que c'est pour ça qu'il y a des gens qui changent tout le temps de programme, Puis quand ça fait comme 2 semaines, ils sont sur le même programme, ils sont comme ah, mon programme marche plus, j'aime plus ça. C'est juste que tu fais un peu moins de dopamine, which is a good thing, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est moins de dopamine énergique sur le coup, donc tu vas faire peut-être quelque chose que tu n'aimes pas, donc tu vas avoir une meilleure gestion de ta dopamine parce qu'elle va le monter de façon naturelle et non artificielle, donc elle va rester élevée plus longtemps. Un autre point aussi que j'ai appris, en 2023, j'ai commencé aussi à consommer des antidépresseurs. Ça faisait très, très longtemps que... Moi, je suis en thérapie depuis 3 ans. Puis un an avant, fait, mettons, en tout et partout, 4 ans, réglé plein de problèmes de santé mentale, plein de problèmes de ma vie que j'ai traîné depuis l'âge de l'enfance à l'adolescence, puis que malheureusement, ces enjeux-là sont encore présents. By the way, si vous n'avez pas les sous pour aller voir un psychologue, parce que c'est quand même cher, je recommande un livre qui s'appelle « Je réinvente ma vie ». Moi, ça a été un livre qui m'a fait... si j'avais lu ce livre-là à la base, j'aurais probablement sauvé... 45 minutes, un an de thérapie, 45 minutes, 45, je veux dire, 10 mois à un an de thérapie. OK? C'est un livre qui est incroyable. Je ne me rappelle plus de l'auteur, c'est un psychologue reconnu. Puis ça parle des schémas qu'on a en thérapie. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez un petit quiz à faire au début qui détecte un peu vos schémas problématiques et comment les régler, comment travailler dessus. Bref, c'est un excellent œuvre que je vous recommande fortement. C'est un outil thérapeutique, fait que c'est pas un. C'est pas un Romar Lequin, là. Fait que capotez pas. Fait que ça, c'est ce que je peux vous dire. Donc, pour revenir à mes moutons, c'est ça. Et ça faisait plusieurs années, malheureusement, malgré la thérapie, malgré tout ça, j'avais des de l'anxiété, j'avais des choses à ce niveau-là qui ne voulaient pas se régler, malheureusement, malgré les outils, malgré la compréhension de soi et tout ça. Et j'ai parlé avec ma psychologue, puis elle m'a dit « Écoute, Félix, d'après moi, tu as l'amygdale dans le cerveau qui est hypertrophiée. » L'amygdale, c'est quoi? C'est une partie au niveau du cerveau qui travaille au niveau de la peur et des mécanismes de défense. Fait que probablement à l'âge de l'enfance à l'adolescence, je vais vous dire, bon, je suis pas en thérapie, là, je ne vous expliquerai pas tout les tenants aboutissants de ma vie. Mais j'ai dû probablement avoir cette partie de mon cerveau-là hypertrophiée pour réagir à des peurs et des stress externes et que j'ai vécu étant enfant. Et malheureusement, ça reste hypertrophié toute sa vie. Donc, vous avez beau faire des cold plunges, du sauna, des lumières dans les yeux, bien dormir, vous entraîner, ça se peut que vous ayez besoin d'une médication. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'ouvrir la discussion avec votre médecin de famille qui peut lui-même vous prescrire une molécule ou même aller voir. Moi, j'étais allé voir un psychiatre par la suite pour avoir vraiment la crème de la crème, pour vraiment trouver la bonne molécule pour moi. Et la première que j'ai essayée, ça n'a pas fonctionné. La deuxième, ça a fonctionné. Et on a trouvé le bon dosage. Et maintenant, ça m'aide. Les gens me demandent souvent, c'est quoi, mettons, prendre l'antidépresseur, c'est quoi la différence? La différence, c'est que quand tu es anxieux, le bouton reste collé moins longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on se fait des peurs, puis ça, puis là, on est anxieux, puis on se fait des idées. Bien, on dirait que le bouton là, qui est collé, il décolle plein. Je fais comme, ben là, regarde, là, ça allait, là, ça sert à rien, puis je rationalise beaucoup plus facilement. Est-ce que ça a amené des impacts négatifs dans ma vie? Absolument pas. Je n'ai que du positif à dire. Est-ce que je vais prendre ça toute ma vie? Je ne sais pas, probablement. Peut-être si un jour je ne suis plus sur les réseaux sociaux puis je règle tous mes bobos, peut-être que j'en aurai plus de besoin. Mais pour l'instant, c'est ça. Fait que je voulais juste m'assurer de parler de ce point-là pour enlever un peu les stigmates qui sont. Parce que malheureusement, c'est encore très. Il y a encore beaucoup de jugements sur la médication par rapport à la santé mentale. T'sais, on est en 2024. On n'a jamais vécu aussi longtemps, mais on a certains professionnels de la santé qui nous disent « Ah non, il ne faut pas que tu consommes des. Pas que tu consommes des médicaments, c'est dangereux. » Non, on vit jusqu'à 100 ans maintenant. Oui, big pharma, tout ça, comme « I get it », right? Mais je pense qu'on a fait des bonnes choses aussi dans la science puis dans la pharmaco. Fait que je pense qu'il faut aussi être capable de le reconnaître. Une autre chose que je me suis rendu compte cette année, c'est la puissance de certains suppléments que je n'avais pas tendance à prendre, comme des EAA, des Essential Amino Acids. Des EAA, en fait, c'est vos acides aminés essentiels que vous avez besoin. Il y a de ça pas très longtemps, dans notre galaxie, on avait du BCAA, Branched Chain Amino Acids, qui était de la leucine, de l'isoleucine et de la valine. C'était les acides aminés qui se retrouvent en majeure partie dans le tissu musculaire. Donc, on disait, si tu consommes des des BCAAs durant tes entraînements, tu vas être moins catabolique. Donc, ça va te permettre de perdre moins de tissu musculaire parce que vous savez, quand vous entraînez, vous brisez de la fibre musculaire et tout. Et récemment, dans les dernières années, les compagnies de suppléments ont commencé à sortir des EAA, Essential Amino Acids. Donc, ce n'est pas juste trois acides aminés, c'est tous les acides aminés essentiels. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en plus d'être anticatabolique, c'est anabolique aussi. Et j'avais lu un papier, je ne sais pas si c'est réel, je ne pourrais pas le quote-unquote, mais qui disait qu'un 15 grammes de EAA serait l'équivalent d'un 30 grammes de protéines à cause du fait que c'est les acides aminés qui sont purs, puis vous n'avez pas nécessairement besoin de les digérer. Fait que c'est côté intéressant. Fait que moi, puis je dirais pour avoir un dosage qui est important, là, on parle d'un maximum, selon les études, de 15 grammes, 12 à 15 grammes de EAA dans votre journée. Peu importe où, moi, je vous conseille de le prendre durant vos workouts. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas manger les 2-3 heures avant de s'entraîner, puis des fois, ça va me prendre une heure avant d'aller manger, parce que bon, je suis pas parfait, puis on a tous une vie un peu challengeante, fait que c'est ça. Mais je m'assure toujours d'avoir un 15 grammes de EAA que je consomme durant l'entraînement. Une autre chose que je prends aussi durant l'entraînement, c'est combiner les glucides. Il y a une hormone très anabolique qui s'appelle la IGF-1, Insulin Growth Factor, et plus que tu vieillis, plus ton IGF-1 diminue. C'est une bonne chose parce que l'IGF-1, entre autres quantités, peut être lié à des cellules cancéreuses. Donc, bon, le corps anaboliste et cataboliste. Hein, on est bébé, on grandit, on vieillit, paraît, on devient vieux, puis on meurt. Right? Mais l'IGF-1 va diminuer, puis l'IGF-1, c'est quand même une hormone qui est très anabolique. Puis une façon de la stimuler aussi, c'est peri-workout autour de vos entraînements avant, pendant ou après, vous consommez des glucides. Fait que moi, comme je dis, j'ai pas toujours le temps de m'alimenter de la bonne façon avant mes entraînements, mais je m'assure durant mes workouts de rentrer au moins un 30 grammes de glucides avec mes EAA. Qu'est-ce que je prends? Ben, des fois, je change un peu de mélange, mais je prends souvent de la dextrine cyclique, cluster dextrine. Je me suis rendu compte que c'est tellement rapide, ça rentre directement dans la cellule et combiné avec des EAA, c'est ce qui m'a donné le meilleur résultat. Par contre, ce qui arrive, c'est que si je ne mange pas une heure ou 1h30 après, j'ai tendance à tomber en hypo. En hypoglycémie. Mon sucre DRAP, je l'ai déjà testé autour de 3,84. Fait que je fais le croche un peu. Fait que c'est juste d'aller manger après. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai découvert et que j'aime beaucoup. J'ai aussi, en 2023 aussi, j'ai suivi différentes formations. Bon, je lis beaucoup de choses, mais je fais aussi des formations à l'externe. Et j'ai vu avec Christian Thibodeau aussi une formation sur la nouvelle littérature scientifique concernant l'hypertrophie. Et j'ai mieux compris un peu comment l'hypertrophie, parce que tu sais, on se disait toujours, OK, il faut créer du dommage musculaire, c'est un incontournable quand tu fais de l'hypertrophie, blablabla. Bla, bla. Et malheureusement, tu en as besoin de dommages musculaires pour hypertrophie. Mais la réalité, c'est que c'est non. Tu sais, un muscle qui est blessé, puis un muscle qui hypertrophie, c'est deux mécanismes différents. Okay? Pour récupérer du muscle et hypertrophie, c'est deux choses différentes. Fait que ce que je comprends, en fait, ce qu'on comprend dans la nouvelle littérature, c'est que si vous blessez trop un muscle, le muscle va prioriser guérir au lieu de grossir. Okay? Fait qu'il faut du volume, c'est correct en entraînement, tout ça, puis je vais y revenir tout à l'heure. Mais si vous blessez trop votre muscle, bien, vous allez inhiber malheureusement la capacité de croître du muscle, d'hypertrophier. Fait que ça ne vous sert à rien là, d'être balls to the walls, puis de vous entraîner comme des déchaînés, de faire 24-7 à l'échec. Non, ça ne sert à rien. Okay? Vous allez probablement pas atteindre des résultats parce que la récupération que vous allez avoir, ça va être juste être pour récupérer ou régénérer votre muscle qui est blessé, mais ne jamais hypertrophier. Il y a trois façons de voir l'hypertrophie. On peut le voir par le volume, donc en faisant de l'accumulation, donc beaucoup de sets, beaucoup de séries, puis jamais trop vous rendre à l'échec. Toujours garder 2-3 reps in reserve, RIR qu'on appelle. Une autre façon, c'est d'y aller avec de la progressive overload, donc d'une surcharge progressive, c'est d'augmenter de 2 à 5% ses charges de façon sporadique et d'uniquement focusser là-dessus. Et une autre stratégie, c'est basé sur l'effort, l'intensité. Donc, être capable de mettre plus d'intensité de workout en workout et de vous rendre vraiment à l'échec musculaire et au-delà. Les trois stratégies fonctionnent. Il faut être capable de les faire en cycle. Puis, il y a certaines personnalités qui vont mieux réagir qu'à d'autres. Nous, en bureau, en clinique, on fait un test de neurotyping pour voir un peu le type de personnalité des clients, pour voir un peu de quelle façon on devrait travailler avec ce client-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime plus le volume, plus l'intensité, tout ça. Moi, personnellement, mes workouts que je préfère, lorsque j'ai commencé en entraînement, j'étais beaucoup sur le volume. J'aimais ça. Et malheureusement, j'ai atteint un pic parce que je suis quelqu'un, je suis comme un, je sais pas comment l'expliquer, un cheval de course. Là. Fait que moi, je suis capable d'en prendre, puis je vais me surentraîner. Je suis ce genre de gars-là. Puis quand j'ai découvert en 2023 plus que j'ai commencé à mettre plus l'emphase sur des entraînements où est-ce que tu favorises l'effort, effort-based workout, il y a un monde qui s'est ouvert à moi. Okay? Je donne un exemple. Mettons, je vais faire un exercice, un chest press ou un hip thrust. Okay? Je vais faire 5 séries. Première série, 50% de mon 8 répétitions. Fait que mettons la charge que je serais capable de faire à 100% pour 8 répétitions, qu'après 8 répétitions, je serais défoncé. Je prends 50% de cette charge-là. Par la suite, 75%. Par la suite, 85%. Par la suite, 100% de mon 8 RM et je fais 5 à 10 répétitions. Et par la suite, je fais un back offset. Fait qu'en français, c'est quoi? Si la charge que je lève avec un hip thrust, ma charge maximale, c'est 100 livres, je dis n'importe quoi. Ma première série, c'est juste 50 livres. Fait que c'est facile. Coordination intra-intermusculaire, on commence le mouvement, on mime un patron moteur. Bon. Par la suite, 75%. Assez facile encore. Un peu plus de tension, mais pas trop. Ça se fait relativement bien. Par la suite, 85%. Ah, ça se fait bien. Je m'en vais. Je fais mes 8 répétitions. Je rush pas, mais les deux dernières, je suis comme OK, c'est challengeant. Là, après 100%, fait que là, je me dis qu'à 8 répétitions, je serais mort. Puis je me dis, j'en fais entre 5 et 10. Et ce qui est intéressant en hypertrophie, là, où est-ce que la beauté elle arrive, là, c'est quand, tu sais, vous avez vos fibres qui frottent comme ça, là, qui frottent toujours de façon vite. Si vous êtes capable de faire une répétition vite, rapide, il n'y a pas vraiment d'hypertrophie. L'hypertrophie va arriver, là, comme mettons, quand l'ion de calcium va sortir. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'il y ait de la friction. OK? Fait que quand vous faites une répétition, il faut là, que dans votre tête, vous dites « je vais le plus vite possible », mais ça fait comme il y a comme une friction parce que vous avez de la misère, c'est difficile, c'est là que l'hypertrophie arrive. Fait que moi, j'essaie toujours par cette fameuse série-là, qui est la série déterminante de mon exercice, j'essaie toujours d'avoir entre 3 et 4 répétitions où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de friction. Par la suite, je prends 2 minutes de pause et je drop, je fais un back offset. Donc, j'enlève les poids et je reviens à 75% de ma charge, qui était la deuxième série. Et je fais le plus de séries possible en explosion jusqu'à ce que je crée 2-3 reps de friction à la fin. Et pour les gros groupes musculaires que je veux développer, je vais faire peut-être 4 exercices avec seulement une grosse série par exercice. Les muscles que je veux maintenir, je vais faire 2 exercices. Et deux séries efficientes, dont 2 exercices avec une série à 100%. Et les muscles, je me fous un peu. Je vais juste faire un exercice avec une série efficiente. Donc, c'est une façon de bâtir votre volume aussi parce que vous ne pouvez pas vous entraîner comme ça, balls to the walls, sur à peu près tous les muscles, tout le temps, intense. Vous voyez, fait qu'il y a une seule série par exercice qui est vraiment challengeant. Donc, votre build-up au début, c'est un build-up pour cette série-là qui va avoir des répétitions bien spécifiques qui va créer beaucoup de friction puis qui va induire l'hypertrophie. OK? Fait que ça aussi, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai mis de l'avant et j'ai vu beaucoup de résultats. Meilleure récupération et mes charges, mon Dieu, c'est pas un entraînement avec de la surcharge progressive, mais mes charges augmentent tellement. Et une autre chose aussi, avant, je m'entraînais 6-7 fois par semaine et j'ai descendu ma musculation 5 fois par semaine et mes workouts durent maximum en musculation 40 minutes, 45 minutes. Si vous êtes plus d'une heure de temps au gym, vous êtes en train de vous faire des amis, vous n'êtes pas en train de pousser parce que c'est très... Vous allez au gym, là, mettez vos écouteurs, là, puis vous êtes là pour travailler. Okay? Une autre chose que je peux vous donner en conseil, si vous êtes en maintenance, vous ne voulez pas prendre de gras, vous voulez perdre du gras, entre vos séries de musculation marché, ça va vous permettre, moi sur un entraînement, écoutez, un entraînement de 45 minutes, je suis capable de cumuler 1500, 2000 pas, juste entre mes sets parce que je marche au bord de l'eau, je me promène, je ne reste pas assez à texter. Okay? Ça va vous aider à augmenter votre NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, qui va vous aider à augmenter votre métabolisme. Une autre chose aussi, ce que j'ai incorporé, c'est mon dernier point, numéro 7, j'ai dig-down beaucoup dans les recherches puis le travail d'un gars qui s'appelle Peter Attia, médecin aux États-Unis, qui est vraiment, il est vraiment intéressant. Puis il parle beaucoup de longévité, c'est un peu son cheval de bataille. Puis il parle du cardio en zone 2. Okay. Cardio en zone 2, c'est quoi? C'est un cardio... Je vais vous dire un peu comment le calculer, mais c'est plus compliqué que ça. Okay, il faudrait faire des tests et tout ça. Mais vous donner une idée, là, c'est 180 moins l'âge. Okay? Fait que vous avez 20 ans, c'est 160 battements par minute. Okay? Vous donnez une idée. Mais encore là, c'est variable selon les individus, tout ça. Ce qu'il faut comprendre de ça, quand vous arrivez en zone 2, c'est que zone 1, là, vous marchez sur une petite pente, c'est facile, vous pouvez avoir une grosse discussion avec votre chum ou votre blonde à côté, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu sportif, là. Mais c'est ça. Zone 2, c'est comme vous êtes capable de parler, mais c'est pas aussi fluide. C'est pas facile. Zone 3, vous êtes plus capable de parler. Là. Vous êtes... c'est plus difficile. La zone 2, je trouve que c'est une zone dure à maintenir parce que tu peux pas mettre du gaz, pas comme un let's go le gaz dans le fond, puis mais en même temps, c'est pas relax. Fait que c'est comme un entre-deux fatigant. C'est comme un, comme diraient les Français, c'est comme un footing. Tu sais, un petit footing, là. C'est comme un jogging du samedi matin, bien relax. Okay. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu parles à des athlètes d'Ironman, j'en connais plusieurs, ou qui font des sports d'endurance, bien, le zone 2 représente quasiment 80% de leur entraînement parce que c'est une bonne façon de bâtir du volume, du millage au niveau de la cardio, augmenter ton endurance. Mais moi, ce que j'aime du zone 2, c'est que ça augmente la mitochondrie. Donc, cette fameuse petite batterie-là là, que je parlais le matin, là, qu'on stimulait avec la lumière, là, on peut l'augmenter et ça augmente d'un le métabolisme. Comme dirait Greg Doucette, « You're gonna be a better butter burner », fait un meilleur brûleur de graisse. Mais aussi, ce qui va être intéressant, c'est que c'est corrélé directement avec l'augmentation au niveau de la longévité. Vous allez vivre plus longtemps, which is a good thing, right? Fait que c'est pour ça que le zone 2, moi, c'est quelque chose que j'ai incorporé. Quand je finis mes entraînements de musculation, je vais faire un 15 minutes de cardiovasculaire, 10 minutes en zone 1, 5 minutes en zone 2. Et les deux journées que je ne fais pas de musculation, je vais faire du cardio. Je vais essayer de faire 45 minutes de cardiovasculaire. Et je vais essayer de faire un 30 minutes, 20 à 30 minutes en zone 2. Donc, tout ça cumulé ensemble, fait ma partie aussi cardiovasculaire de ma semaine. T'sais. Fait que ça, c'est important. Troisième des choses au niveau du set, j'ai trouvé une application qui s'appelle Pliability. Je ne suis pas relié avec Pliability, je n'ai pas de port dans cette entreprise-là, mais j'ai cherché longtemps pour trouver la meilleure application pour la mobilité. Moi, j'ai plusieurs blessures là, avec le temps, dont j'ai eu deux hernies discales, donc une L5 S1 à gauche. Et mon nerf sciatique est souvent comprimé, irrité. Okay? Quand je fais ma mobilité, j'ai l'impression que ma gaine, comme ça glisse mieux, mon nerf sciatique est en meilleure santé, puis j'ai une meilleure amplitude de mouvement. Right? La même chose que, tu sais, des gens qui ont de la misère à recruter leurs fessiers. Ah, mes fessiers, tatata. Fait que là, ils voient sur Internet faire des marchés sur le côté avec les élastiques, des affaires. C'est cool. C'est bon pour stimuler le fessier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre adducteur est trop tight, l'adducteur, c'est à l'intérieur de la cuisse, malheureusement, le fessier va être inhibé. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de le recruter. Une autre chose, si votre ischio-jambier est très fort, moi, j'ai un ischio-jambier qui est comme, on dirait une demi-lune. Il est vraiment bombé derrière ma cuisse quand j'ai des jeans un peu plus serrés, comme on dirait un quad, mais de l'autre bord. Donc, j'ai un ischio-jambier qui est très fort. Qu'est-ce que vous pensez? L'ischio-jambier, plus gros muscle, beaucoup plus fort que le fessier, il prenait toute la tension de mon fessier. Fait que, tout allait dans l'ischio, tout allait dans le bas du dos. Donc, ce qui arrive, c'est que ça crée une boucle d'inhibition au niveau du fessier, donc une atrophie, donc moins de force. Fait que pour revenir à Pliability, quand vous faites de la mobilité, ça vous aide à relâcher les hanches, ça vous aide à ouvrir, à relâcher l'adducteur. Donc, ça permet de régler ces petits problèmes-là que vous pouvez potentiellement avoir. Ça vous aide à les régler et ça vous aide aussi par le fait même à avoir un meilleur recrutement. Et c'est un bon retour au calme, des entraînements. Puis dans Playability, ce qu'il fait, c'est que ces entraînements, c'est de la flexibilité, là, si vous voulez, mais avec des mouvements que vous tenez 2, 3, 4, 5 minutes. Le fait de tenir un mouvement en flexibilité longtemps et que vous relaxez, ça c'est l'autre élément bien important, il faut relaxer quand vous faites votre flexibilité. Si vous ne relaxez pas, vous n'avez pas les bienfaits. Si vous arrivez, à relaxer, exemple, vos hanches, vous arrivez à relaxer tout ça, ça va vous aider à chercher l'amplitude de mouvement, mais ça va aussi relaxer votre corps. Si vous avez un système sympathique, parasympathique, là, ça va vous aider. Fait que quand vous le faites en fin de journée, après une douche, moi je le fais en pyjama, là, genre en petite legging puis en t-shirt, là, je dors vraiment mieux. Okay? Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, c'est faire de la mobilité le soir, des longues séances, des séances de 20 minutes. Des fois, je fais des séances de 50 minutes. Puis, c'est aussi important que faire de la musculation. C'est tout aussi important. À un moment donné, on avance en âge, puis on se rend compte que c'est bien beau avoir des gros biceps, puis des gros pecs, puis des fesses bombées, puis des... Bon, vous comprenez ce que je m'en vais avec ça, mais la réalité, c'est que vous voulez être capable de vous pencher, ramasser un crayon sans avoir mal. Vous êtes capable de jouer avec vos neveux, nièces, vos enfants, si vous en avez. Vous êtes capable de courir avec votre chien. Vous voulez être mobile. Vous voulez être capable de tout faire ce que vous avez à faire. Vous voulez être complet. En ce moment, il y a une grande mode sur les athlètes hybrides. Hein. C'est comme, j'entends ça partout, hybrid athlete. C'est le fait d'être fort, d'être endurant, de bon tout ça. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que pour moi, au-delà d'être un athlète hybride, être un humain hybride, c'est d'être capable d'avoir une belle mobilité, d'être en forme, de tout faire ce qu'un humain normal peut faire. Tu sais, des Ironman, c'est le fun, mais c'est pas, on n'est pas fait pour faire ça comme à tous les jours. T'sais. Le but, moi, c'est de vieillir en santé, d'être bien dans ma peau, mais que tous mes marqueurs de prise de sang soient optimaux et d'être capable de tout faire sans me blesser. Tu sais, y a beaucoup de sports, que ce soit du bodybuilding, que ce soit du CrossFit, que ce soit des lactose, un running, whatever. Souvent, il y a des rendez-vous, souvent en physiothérapie, parce que le monde, hey, je me suis blessé là, je t'ai irrité là. C'est un sport. On demande à la machine, on pousse la machine, which is very nice, c'est vraiment bon, tu sais, mais c'est extrême. Okay? Fait que vous n'êtes pas obligé de vous rendre là pour être en santé. Vous pouvez en faire beaucoup moins et être en santé quand même, parce que la réalité, c'est quoi la santé? Vous avez une définition, j'ai une définition, puis bon, on peut en discuter, là, mais ça ressemble un petit peu à ça. Fait que voilà, les amis, c'était mon premier podcast de 2024. J'espère que vous avez aimé cette formule et ces 7 points qu'à mon sens, honnêtement, si vous appliquez tous ces nouveaux points-là que j'ai appris dans la dernière année, ça va bien aller. Vous allez passer une bonne année, je pense. Et ça ressemble un petit peu à ça. Gênez-vous pas si le podcast vous l'avez apprécié, si vous l'avez écouté sur YouTube, Spotify, Balader, Encos, whatever, ou laissez un petit cœur, un petit j'aime. Ça fait toute la différence. Commentez un des points que vous avez aimé. Commentez quelque chose que vous avez appris. Pour l'algorithme YouTube, c'est génial. Ça nous aide énormément. Moi, ça m'aide en tant que créateur de contenu. Dites-moi comment vous trouvez le layout. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça répond à vos attentes, à vos besoins. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et on se reparle très bientôt.